Bon matin tout le monde.
Bon matin.
C'est encore un privilège pour moi de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Courbons-nous ensemble et remettons ce temps dans les mains du Seigneur. Père Céleste, merci pour le privilège de t'appartenir. Merci pour ton salut. Merci pour ta présence. Merci d'avoir mis ton esprit dans nos cœurs, Seigneur Dieu, pour t'être révélé à nous. Merci pour ta parole. Pour la liberté qu'on a de lire ta parole. Et on te prie, Seigneur, que tu nous guides ce matin, que tu parles à nos cœurs, que tu sois avec ma bouche, Seigneur, que tu parles au travers de moi, Seigneur, pour qu'on puisse avoir les cœurs fortifiés, Seigneur, par ta parole. Guide-nous, Père, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, comme Michel l'a mentionné, en début d'année, c'est un bon moment pour s'arrêter, puis examiner nos vies. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui, au début de l'année, prend des décisions pour la nouvelle année. La plupart du temps, ces décisions-là se résument à des questions plutôt terre-à-terre, faire de l'exercice, perdre du poids, manger mieux, arrêter de fumer, des choses comme ça. Ce sont des belles et des bonnes résolutions. Puis ces résolutions-là sont souvent nécessaires. Mais malheureusement, le taux de succès est assez faible. Yolande, s'il vous plaît, si tu veux mettre le petit graphique que je t'ai envoyé. C'est un graphique ici qui dit à peu près, qui résume à peu près ce que les différents sondages nous démontrent. C'est que au début de l'année, lorsque les gens prennent des résolutions, il y a 100% des gens qui sont très sincères et motivés pour changer des choses dans leur vie. À la fin du mois de janvier, il reste 77% des gens qui sont encore engagés dans leur résolution. C'est bon quand même, 77%. Si j'avais eu ça dans mes bulletins, mon père aurait été content. Mais rendu à la mi-février, seulement 20% tiennent toujours de leur résolution. Alors, entre la fin janvier et la mi-février, il y a un décrochage majeur, puis finalement, rendu à la fin de l'année, il reste seulement 8% des gens qui ont tenu leur résolution. Bien entendu, ce matin, je ne veux pas vous parler de régime ou de perte de poids. Ce matin, je vais vous parler des résolutions spirituelles. Est-ce que, spirituellement, on aurait raison, on a des raisons bibliques de prendre des résolutions? La première chose, dans le psaume 95, le verset 6 et 7, on peut lire ceci. Il dit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alors, la première chose, c'est ma position face à Dieu. Évidemment, je suis une de ses créatures, il est mon créateur. Mais est-il mon Dieu? Alors, il dit, nous sommes... Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage. Alors, est-ce qu'il est mon Dieu, est-ce que je suis une de ses brebis, une brebis de son pâturage? Puis il finit en disant, « Oh, si vous pouviez écouter ma voix! » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, « Oh, si vous pouviez écouter ma voix! » Il veut dire, « Ça fait une différence. » Si vous êtes une brebis, que vous faites partie de son troupeau, du troupeau de son pâturage, ça fait une différence. Oh, si vous pouviez écouter ma voix. Chrétien ou non-chrétien croyant ou véritable croyant ou croyant du bout des lèvres, que vous soyez croyant ou non, Dieu y est toujours prêt à vous accueillir. Si vous êtes croyant, vous savez ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous savez à quel prix, quel est le prix que le Seigneur a payé pour vous. Puis vous savez aussi que ce prix-là est tellement élevé que jamais le Seigneur va renoncer à vous garder. Pourquoi? Parce que vous êtes précieux à ses yeux. L'apôtre Paul, dans Romains ou dans l'Épître aux Romains, dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Si on appartient au Seigneur, on a beaucoup de valeur pour lui, on est précieux, on a du prix à ses yeux, puis il ne nous laissera pas aller. Il va toujours nous garder. Si vous ne savez pas à quel prix vous avez aux yeux du Seigneur, quel prix que le Seigneur a payé pour vous, bien, ce matin, je vais vous en parler un petit peu. Dans le psaume 130, les versets 1 à 4, alors, dans un ou l'autre des cas, que vous soyez des véritables croyants ou que vous ayez des hésitations quant à la foi, quant à la certitude de votre foi, de votre salut, un ou l'autre, le psaume 130 a quelque chose à nous dire. Versets 1 à 4, il dit « Cantique des degrés, du fond de l'abîme ». Alors, « Cantique des degrés », c'est des cantiques que les hommes chantaient en montant vers l'autel, vers le temple. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors, dans l'une ou l'autre des situations, un ou l'autre des cas, que vous soyez un véritable croyant ou que vous ayez des hésitations quant à votre foi, l'auteur de ce psaume-là, probablement David, c'est pas spécifié, mais la plupart des autres psaumes des degrés, là, sont reconnus d'être de David. Alors, David, il était berger à cette époque-là, à une certaine époque. Puis, il y a eu des moments sombres dans sa vie. Il y a eu des moments où il est devenu roi, puis il a fait des péchés, puis il est resté un certain temps dans son péché. Il y a eu d'autres moments où un de ses fils courait après lui pour y couper la tête. David, il avait compris. C'était quoi l'importance de sa position face à Dieu? Il avait compris une chose, c'est que la seule raison où il pouvait venir devant Dieu avec le péché, c'était pour le confesser puis pour obtenir le pardon. Et qu'on soit chrétien ou qu'on soit hésitant dans la foi ou non-croyant véritable, le Seigneur est toujours prêt pour nous accueillir. Le Seigneur veut de nous. Et le psaume 103, là, un psaume qui vient de David, qui est reconnu d'être de David, il dit ceci. Psaume 103, à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, David, il nous explique dans ce passage-là le caractère de Dieu face aux pécheurs, face aux péchés. Puis, cette attitude-là de Dieu s'applique à tous. Cette attitude-là s'applique à tous. Dans les évangiles, la parabole de l'enfant prodigue, on voit que le père, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours ouvert, il attend toujours son fils qui était rebelle finalement. Il est toujours prêt à l'accueillir. Et nous, dans nos vies, puis, si on met ça en perspective de l'année qui commence, le Seigneur, il est toujours prêt à nous accueillir, puis il est toujours prêt à nous pardonner les choses qui ne sont pas correctes dans nos vies. C'est ça le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ, qui est disponible pour tous. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il nous explique ça comme il faut, d'une manière bien simple et concise. C'est quoi le message de l'Évangile? Il dit, je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et après ça, il dit qu'il est apparu à Jacques, puis après ça, il est apparu à l'apôtre Paul, qui dit « comme un avorton ». Alors, c'est ça le message de l'Évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité des morts, puis ça, c'est un fait avéré, nous dit-il, parce qu'il y a eu des témoins, il y a eu beaucoup de témoins. Et à qui ce message-là s'adresse? Dans l'Évangile de Jean, le verset clé de toute la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, il va nous le dire, il nous le dit à qui ça s'adresse ce message-là de l'Évangile. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, la meilleure résolution que vous pouvez avoir cette année, en ce début d'année, c'est de venir au pied de la croix, puis de demander au Seigneur, de demander à Dieu de vous accorder ce salut-là. Il va vous expliquer tantôt comment faire ça. Qu'est-ce qui est important dans cette démarche-là? Dans notre démarche, dans notre relation avec Dieu, dans notre démarche, si on veut prendre des résolutions avec la nouvelle année, ou peu importe quelle résolution, peu importe quand. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde le cœur. Je ne peux pas prendre une résolution puis dire, je vais le dire là, mais je ne me casserai pas trop la tête avec ça. Parce que Dieu regarde le cœur, Dieu voit le cœur. Il nous dit ça dans le livre de Samuel au chapitre 16, les versets 6 et 7. Les critères de Dieu ne sont pas des critères extérieurs ou des critères selon les apparences. Ce que Dieu veut, c'est une attitude intérieure, celle du cœur. C'est ça qu'il recherche. Et dans ce passage-là, c'est lorsque Samuel, Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe pour oindre un de ses fils comme roi d'Israël. Alors, au verset 6, on peut lire, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, c'est un passage qu'on connaît bien. Éliab, il était grand, il dépassait les autres de la tête, puis il était un homme de guerre. Puis David était simplement un berger qui gardait les troupeaux la nuit dans les champs avec son bâton. L'apôtre Paul, dans Actes 13, il va citer 1 Samuel 13, 14. Ça dit quoi? Ça dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur. Dans Matthieu, au chapitre 22, les versets 36 à 38, C'est un homme qui il va vers Jésus, puis qui lui pose une question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » « Comment? » « De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Alors, c'est le plus grand commandement de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit d'aimer Dieu, mais pas n'importe comment, de tout notre cœur. Dans nos relations avec notre époux ou notre épouse, on désire la sincérité, bien entendu. Si un des conjoints n'est pas sincère, l'autre va s'en apercevoir assez facilement un jour ou l'autre. Avec Dieu, il faut que le cœur soit sincère, que le cœur y soit. Il ne faut pas penser qu'on peut être pas sincère avec Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 10, les versets 18 à 22, bon, ici, c'est un passage qui est un petit peu long, puis un petit peu qui demande un petit peu d'explication. Au verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. » Alors, l'auteur ici il fait référence au sacerdoce lévitique, au sacerdoce avant la loi, le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Puis, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les enfants d'Israël avaient besoin de faire des offrandes pour les péchés qu'ils faisaient. Alors, il nous dit, là, lorsqu'il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrandes pour les péchés. Alors là, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin d'avoir des offrandes pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers le voile, c'est-à-dire sa chair, alors on n'a plus besoin de faire des sacrifices, d'aller sacrifier des agneaux, puis des boucs, puis des brebis. Pourquoi? Parce qu'on a une libre entrée dans le sanctuaire, on a un libre accès auprès de Dieu. Comment? Pourquoi? À cause du sang de Jésus, du sang qui est versé à la croix pour nous. Puis après ça, il dit au verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Alors, Jésus, il est l'agneau sacrificiel, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Il est les deux en même temps. Il dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. » Alors, approchons-nous de Dieu. Si on veut pouvoir avoir un libre accès auprès de Dieu par le sang de Jésus, on a juste à s'approcher. Comment? D'un cœur sincère. Encore là, ce n'est pas juste des paroles en l'air ou c'est sincère. Il faut que ça vienne du cœur. Josué, dans son dernier discours avant de mourir, il exhorte les enfants d'Israël à prendre position pour l'Éternel. Puis ça, c'est un bon exemple de résolution. Il dit dans Josué, au chapitre 24, les versets 14 et 15, il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Alors, quand il dit « craignez l'Éternel », ça ne veut pas dire d'avoir peur, ça veut dire « ayez du respect ». Ayez un respect, ayez l'Éternel en haut respect. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Alors, les enfants d'Israël, à certaines époques, avant, quand ils étaient dans le désert, on se rappelle, par exemple, l'épisode du veau d'or, ils servaient d'autres dieux. Nous autres, est-ce qu'on peut servir d'autres dieux que l'Éternel dans nos vies? Certainement. Il y a plein d'autres dieux. Et si vous ne trouvez pas bon, au verset 15, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, j'ai ce verset-là dans mon portique d'entrée à la maison. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une résolution que j'ai prise avec mon épouse quand on s'est mariés. C'est une résolution qu'on a besoin de prendre. Tous les chrétiens ont besoin de prendre cette résolution-là, de servir l'Éternel, de s'attacher à l'Éternel. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 12, le verset 2, les résolutions doivent être basées sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, les résolutions spirituelles qu'on a besoin de prendre, c'est des résolutions selon Dieu, selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est mauvais d'avoir d'autres résolutions? Non. Mais les résolutions spirituelles pour nos vies spirituelles, on va voir c'est quoi notre objectif dans quelques minutes. Il faut que ce soit dans la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Dans Jean, au chapitre 15, versets 4 et 5, le Seigneur Jésus, il donne un principe ici élémentaire pour nos vies. Jean 15, 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Si vous taillez un pommier au printemps, on fait ça d'habitude au mois de mars, à peu près, avril, mars même, quand il y a encore de la neige, si vous taillez un pommier, les branches qui vont tomber par terre, que vous allez tailler, il n'y aura pas de fruits dedans cet été. C'est sûr. Si vous voulez que les branches aient des fruits, il faut qu'ils restent attachés après le tronc. Il dit, si vous demeurez en moi, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous laissez la branche après le tronc, la sève va continuer d'aller dans le tronc. Demeurez en moi. Le Salomon, dans Proverbes, au chapitre 3, les versets 5 et 8. Après plusieurs années chrétiennes, des fois, on peut avoir tendance à se voir comme sage, puis de s'éloigner un peu. Il dit au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Alors, s'appuyer sur le Seigneur. Le psaume 37, il reprend le même thème que ça. Psaume 37, les versets 5 et 6. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Alors, spirituellement, le Seigneur, il m'offre d'agir pour moi, finalement. La prière, comme Michel l'a mentionné dimanche passé, c'est de demander à Dieu de faire ce que je ne peux pas faire moi-même ou de demander à Dieu ce que je pense qu'il va faire mieux que moi, je vais le faire moi-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que dans vos vies que vous pouvez faire mieux que Dieu? Moi, pas dans la mienne, en tout cas. Pas dans la mienne. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, puis laisse-le agir. Et on a un exemple dans les Saintes Écritures qui nous... que le Seigneur nous mentionne dans Luc, chapitre 12, versets 16 à 20. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, l'homme riche, c'est vraiment l'exemple de celui qui ne tient pas compte de Dieu dans sa vie. Et des fois dans nos vies, je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme ça, moi, des fois dans ma vie, il y a certaines choses que j'aurais avantage à impliquer Dieu plus. Jacques, au chapitre 4, versets 7 à 10, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors, c'est un grand passage pour dire que quand on s'approche de Dieu, il faut que ce soit avec humilité. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va faire si on fait ça? Il dit, il va nous élever. Il va nous élever. Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par lui pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, ici, une belle résolution que l'apôtre Pierre nous recommande, c'est de croître. Il dit, croître pour le salut, ça ne veut pas dire de croître pour être de plus en plus sauvé, mais ça veut dire de croître pour être digne du salut qu'on a obtenu du Seigneur. Il dit qu'on a besoin de grandir spirituellement. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, avoir soif de grandir spirituellement, comment? Comme un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né, ça boit souvent, après 2-3 heures, ça chiale pour boire encore. Bien, c'est ça que le Seigneur nous dit de faire, que l'apôtre Pierre nous recommande ici, c'est d'avoir soif pour vouloir boire, voir goûter la bonté du Seigneur, puis croître spirituellement. Dans l'apôtre Pierre, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 29, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ça? Il nous dit, préparez-vous. Préparez-vous. L'apôtre Paul compare notre vie spirituelle à une course d'un athlète. Un athlète qui s'entraîne pour les Olympiques, qu'est-ce qu'il fait? Il se résout à un régime des stricts d'exercice, à une diète du sommeil. Pourquoi? Pour être prêt pour la course. Mais, dit-il, le prix spirituel, ce n'est pas une couronne qui est corruptible. C'est une couronne qui est incorruptible. Bon, c'est quoi les attentes de Dieu? Est-ce que, oui, on peut prendre des résolutions? Oui, c'est bien d'avoir le désir de prendre des résolutions. Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'en prendre, des résolutions? l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Oh, là, il dit beaucoup de choses dans ce passage-là. Il dit, l'Église, Dieu il a muni l'Église de personnes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi le perfectionnement des saints? Il dit, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alors, les enfants de Dieu, on est le corps de Christ. Puis, sur la terre, on est supposé de ressembler de plus en plus au Seigneur. Nous autres, comme Assemblée chrétienne, les chrétiens dans le monde sont supposés de ressembler de plus en plus au Seigneur. L'édification du corps de Christ, puis là, il va nous donner la cible. Il va nous dire jusqu'où on a besoin d'aller. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est quoi l'unité de la foi? Bien, c'est les chrétiens, entre eux autres, qui sont unis. C'est l'amour. L'unité de la foi, puis un autre critère, une autre chose qu'on a besoin, à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, connaître, qu'on soit unis ensemble, puis qu'on connaisse de plus en plus le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus. Et là, il met encore la barre encore plus haute, il dit, à l'état d'homme fait. Alors, on n'est plus des enfants, comme on a vu tantôt, le petit bébé qui a besoin de boire à toutes les 2-3 heures. Mais il dit, on ne doit pas rester là. On doit devenir à l'état d'homme fait, des hommes matures. Puis, finalement, là, la barre, il la met à l'extrême haute. Il dit jusqu'à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est haut, ça, la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est haut, ça. Alors, quelles sont les attentes de Dieu? Les attentes de Dieu sont pour nous la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, est-ce qu'on a besoin de prendre des résolutions? Est-ce que c'est une bonne chose pour nous de prendre des résolutions dans nos vies spirituelles, des résolutions spirituelles. Et non seulement c'est une bonne chose, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et ce n'est pas nécessaire juste en 2026. Ça l'était en 2025, puis ça va l'être encore en 2027. Finalement, oui, comme chrétien, on a besoin de grandir spirituellement. Et lorsque je vois la nouvelle année qui commence, j'ai besoin de revenir en arrière sur l'année 2025 puis de me demander si j'ai atteint les objectifs que le Seigneur il veut pour moi en 2025. Puis peut-être que j'ai besoin de confesser certaines choses. Puis j'ai besoin de pas regarder en arrière, mais de regarder en avant, puis de regarder en haut pour arriver à la stature parfaite de Christ. Puis, si par malheur, vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur personnel, si par malheur, Dieu dit, « Oh, si vous pouviez écouter ma voix, si vous pouviez écouter ma voix. » Autrement dit, ça ferait une grande différence dans ta vie si tu écoutais ma voix. Ça ferait une grande différence dans ta vie si tu venais à la connaissance du Seigneur Jésus. Comment on fait ça, venir à la connaissance du Seigneur Jésus? Il faut reconnaître, premièrement, qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus. Le Seigneur, il dit à ses apôtres, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et on applique souvent ce verset-là, ce passage-là du Seigneur Jésus, ces paroles-là du Seigneur Jésus, à dans nos vies chrétiennes, sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Ce n'est pas seulement dans nos vies chrétiennes qu'on ne peut pas rien faire. C'est sans Jésus, spirituellement, on ne peut pas rien faire. Sans Jésus, on est mort spirituellement. Sans venir au Seigneur Jésus, sans accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on est mort spirituellement. Alors, il faut premièrement reconnaître ça, reconnaître que ça, ce fait-là de mort spirituelle, c'est à cause de notre péché. C'est à cause du péché. L'apôtre Paul, il dit dans Romains 3, 23, il dit, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Une fois qu'on a reconnu ça, qu'on a reconnu que notre péché nous sépare de Dieu, bien, on a besoin de le confesser, puis de se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est faire un U-turn, c'est changer de direction. Je marchais dans ma vie sans me préoccuper de Dieu, sans égard pour Dieu. Maintenant, j'ai décidé que dans ma vie chrétienne, dans ma vie, je vais vivre par égard pour Dieu. Je vais tenir compte de Dieu dans ma vie. C'est ça la repentance. C'est ça changer de direction, faire un U-turn. Et une fois que je me suis repenti, que j'ai confessé mon péché, de demander à Dieu de me donner ce salut-là en Jésus-Christ, de demander à Dieu de me pardonner et de me donner ce salut-là en Jésus-Christ. Et si je fais ça avec un cœur sincère, mais savez-vous quoi? Dieu va répondre. Il va se passer quelque chose dans votre vie, il va se passer quelque chose dans vos cœurs. Dieu va mettre son Saint-Esprit dans vos cœurs, Dieu va vous révéler la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va vous révéler la préciosité de la croix du calvaire, de la croix de Christ pour vous, et vos vies vont être transformées. En terminant, j'aimerais ça qu'on se courbe ensemble, puis qu'on prie le Seigneur qu'il puisse nous aider dans cette nouvelle année à tenir compte de lui, à prendre les résolutions qui sont nécessaires pour nos vies. Courbez-vous avec moi et prions. Père Céleste, merci pour le privilège qu'on a de t'appartenir. Merci, Seigneur, parce que tu as payé un grand prix pour le rachat de nos âmes, Seigneur Dieu. Et tu nous as rachetés, Seigneur Dieu, pour faire de nous des enfants du roi des rois, Seigneur Dieu. Et Père, on veut te prier, Seigneur, que tu nous donne la grâce, Seigneur, de grandir, Seigneur, de plus en plus pour te ressembler, de plus en plus pour être reconnu, Seigneur Dieu, être reconnaissable comme un enfant du Fils de roi, que nos habits, Seigneur, soient royaux, Seigneur, que notre vie soit royale, Seigneur Dieu. On veut te prier aussi, Père, que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur Dieu, des personnes qui nous écoutent ce matin, soit ici, soit sur Internet dans les semaines à venir, que tu puisses visiter, Seigneur Dieu, les personnes. Oui, Père, tu accueilles, tu aimes tes créatures et tu veux les attirer à toi, tu veux leur pardonner, tu veux leur donner le salut, Seigneur, si précieux en ton Fils Jésus. On te prie, Seigneur Dieu, que tu visite les cœurs et que tu convainques les cœurs, Seigneur Dieu, de venir à toi, Seigneur, pour le salut. On te le demande, Père, et on te prie au nom de Jésus. Amen. Et si dans vos vies, vous avez des hésitations quant à votre salut, quant au désir de Dieu de vous accueillir, s'il vous plaît, appelez-moi. Appelez-moi dès cette semaine, ça va me faire un privilège de venir regarder la parole de Dieu avec vous et de prier avec vous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse tous.